des mosquées attaquées en Nouvelle-Zélande, des synagogues prises pour cible aux États-Unis, des églises incendiées au Sri Lanka et au Burkina Faso, le monde est traversé par une déferlante de haine. Doit-on pour autant y voir, dans ces événements tragiques, un choc des civilisations ? Ce n'est pas l'avis d'Adama Dieng.
Je dois dire à la vérité que la notion de choc des civilisations qui a été, je dirais, popularisée par Huntington, je préfère, moi, utiliser la notion de choc des ignorances. Le choc des civilisations, certes, mais si on en est arrivé à tous ces actes abominables, c'est parce que tout simplement, on a perdu le sens de la boussole. On a perdu l'importance de se connaître. Ce n'est pas un choc entre la civilisation judéo-chrétienne, la civilisation islamique, la civilisation africaine, chinoise. Non, c'est le choc des ignorances qui est aujourd'hui le plus grand défi à relever. Et ce grand défi à relever devra supposer la mobilisation de tous les acteurs, non seulement les gouvernants, mais aussi les leaders religieux, les médias, les propriétaires et responsables des compagnies d'Internet. C'est tout le monde qui doit se mobiliser si on veut éviter que le pire arrive.
L'ONU a été fondée sur la promesse de préserver les générations futures du fléau de la guerre, comme le souligne sa charte, mais la haine qui a alimenté l'Europe dans les années 30 est de nouveau présente aujourd'hui et se banalise, déplore le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU.
Malheureusement, ces dernières années, ce que nous avons constaté, c'est la montée en puissance de groupes extrémistes, de groupes qui ont perdu toute notion, je dirais, de vivre ensemble en parfaite harmonie. Et j'ai l'habitude de dire toujours, mon Dieu n'est pas meilleur que le tien, ta culture n'est pas plus riche que la mienne. Et je crois que le jour où nous arriverons à tout simplement regarder l'autre et dire « je suis l'autre », eh bien, en ce moment-là, on aura compris que nous sommes un seul monde, que nous sommes une seule humanité. Et je dois préciser que dans le combat que le secrétaire général Guterres a décidé de mener contre la propension du discours de haine, cet effort sera au cœur même de ce combat.
Mais qu'est-ce que la haine ? Avons-nous aujourd'hui une définition juridique internationale de ce qu'est un discours de haine ? Adama Dieng, qui dispose d'une forte expérience en droit international et dans les droits de l'homme, reconnaît la complexité de pouvoir cerner juridiquement ce fléau, mais souligne que les Nations Unies peuvent aider à mieux l'identifier.
Le discours de haine, d'un point de vue de la définition juridique, est certes complexe parce que la vérité, c'est une zone très grise pour laquelle il n'existe aucune définition juridique internationale. Cependant, dans cette stratégie que nous avons développée aux Nations Unies, le discours de haine est compris comme toute forme de communication écrite, filmée ou comportementale, n'est-ce pas, qui attaque ou utilise un langage péjoratif ou discriminatoire en se référant à la personne ou au groupe en fonction de son identité raciale, religieuse, sexuelle, nationale, etc. Et je crois qu'un tel discours qui est souvent enraciné et qui génère l'intolérance et la haine peut, dans certains contextes, être humiliant et peut-être aussi source de discorde. Nous l'avons vu, ce qui s'est passé récemment dans certains pays où nous avons vu des attaques contre des mosquées, contre des églises, contre des synagogues, nous devons nous remettre en question. Nous devons aujourd'hui plus que jamais nous mobiliser et nous donner la main pour contrer justement ceux qui veulent faire de notre monde un enfer.
Face à la propagation des discours de haine, Antonio Guterres a demandé à Adama Dieng de présenter un plan d'action et une stratégie des Nations Unies pour lutter contre les discours de haine.
Cette stratégie, je dois le préciser, n'est pas quelque chose qui a été élaboré à partir du néant. Déjà, au sein des Nations Unies, dans plusieurs départements, que ce soit le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, le Haut Commissariat aux réfugiés, l'UNESCO, le counter-terrorisme, cite-les tous, il y avait déjà un travail qui se faisait. Mais ce qu'il importait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une stratégie globale. Une stratégie globale et définir à partir de cette stratégie un plan d'action qui peut et doit assister surtout nos collègues qui sont sur le terrain, mais aussi et avant tout ceux qui sont aussi au siège principal, que ce soit à Genève, que ce soit à New York. Mais il importe, et cela, nous sommes reconnaissants aux collègues qui sont sur le terrain, les coordonnateurs résidents, qui sont confrontés à cette problématique. Il est arrivé, par exemple, que des coordinateurs résidents m'appellent pour dire « Mais est-ce que ça, c'est le discours de haine ? Comment est-ce qu'on peut adresser cette question ?»
Mais les discours de haine doivent être pris en compte dans un contexte plus large, mondial, dans lequel l'ONU et les organisations internationales sont attaquées. Adama Dieng appelle à rester vigilant face aux pourfendeurs du multilatéralisme.
Lorsqu'on parle de discours de haine, ça concerne aussi le discours qui tend à, je dirais, saper les valeurs, les principes sur lesquels se fonde l'Organisation des Nations Unies. Lorsque l'on assiste aujourd'hui à des attaques contre le multilatéralisme, lorsqu'on se rend compte aujourd'hui que certains tentent de saper les principes du droit international, cela relève aussi des attaques contre ces valeurs et principes de l'Organisation des Nations Unies. Si nous avons d'ailleurs échappé à une troisième guerre mondiale jusqu'à ce jour, c'est grâce à la Charte des Nations Unies, c'est grâce au respect du droit international, c'est grâce au renforcement du multilatéralisme. Et c'est pourquoi le discours aussi qui a été propagé contre ces valeurs, c'est un discours que nous devons combattre.
La stratégie de l'ONU appelle à soutenir les États membres à contrer les discours de haine. Mais que faire quand des dirigeants politiques et des gouvernements se font le porte-voix de ce même discours ?
Je ne désespère pas de l'humanité. Il est vrai qu'il est très regrettable que ceux-là qui auraient dû être à l'avant-garde pour promouvoir le respect des principes et des valeurs qui fondent l'Organisation des Nations Unies, ceux-là qui auraient dû être les champions de la responsabilité de protéger, qui, comme vous le savez, est un principe qui a été adopté en 2005 par les leaders de ce monde, tirant les enseignements de leur échec, un échec qui a entraîné le génocide de Tutsi au Rwanda, un échec qui a entraîné le génocide de Srebrenica. Et hélas, aujourd'hui, cet enseignement découlant justement de ces échecs semble avoir été perdu de vue par certains leaders, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, etc. Et voilà pourquoi nous devons rappeler à l'ordre ces leaders, leur dire, c'est vous qui avez pris cet engagement, de ne pas rester indifférent lorsque des populations font face à un risque de génocide, de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre. Or, vous devrez savoir que les crimes de haine commencent avec le discours haineux.